بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. على لونج تاع الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de cette assise. Et هذه الجلسة إن شاء الله تكون في هذه المقدمة التالية كمقدمة ثانية مخصصة للتعريف بالإيمان، بعد أن عرفنا البارحة معنى السنة ومعنى الجماعة، لأن الرسالة التي سنتدارسها نبدا عن أصول الإيمان وعن عقيدة السلف رضوان الله عليهم. Donc cette assise sera consacrée, inshallah, à la définition de la foi. Hier, nous avons vu la définition des gens de la sunna et de l'unité. Car la risala que nous allons étudier, le Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, il concerne la aqida et les fondements des gens, les fondements de la foi chez les gens de la sunna. As-Sa'di rahimahullah, fi risala shajarat al-iman, yaqul, les limites et la définition d'une chose qu'il explique doivent venir avant les règles régissant cette chose, car le jugement d'une chose découle de la conception qu'on a de la chose. Celui qui juge une chose avant de cerner sa définition et de la concevoir de manière à pouvoir la distinguer commet une énorme erreur. Fa al-iman ikhwat al-islam en langue arabe, c'est la forme nominale du verbe amana. Il exprime la sécurité qui est le contraire de la paix, qui est le contraire de la peur. Wal iman lughatan masdar amana yu'minu imanan wa huwa min al-amn didd al-khawf kama dhakara ahli al-lugha. قال الراغب رحمه الله اصل الامن طمأنينة النفس وزوال الخوف. Et donc la foi en langue arabe, c'est d'abord le verbe amana. L'iman découle du verbe amana, qui est la sécurité, qui est le contraire de la peur, comme il a été dit. Et au niveau de la langue arabe, c'est la sécurité, qui est le contraire de la peur, sa signification. Raghib rahmatullah alayh a dit l'origine de la sécurité, c'est l'apaisement et la disparition de la peur. L'amn, dans le terme l'amn. Wa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh fa inna ishtiqaqahu min al-amn alladhi huwa al-qarar wa at-tuma'nina wa dhalika innama yahsulu idha istaqarra fi al-qalbi at-tasdiq wa al-inqiyad. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, dans sa définition al-iman, il dit l'iman dérive du terme sécurité, qui est la stabilité et la quiétude. Il s'obtient une fois que la soumission et la testabilité est installée dans le cœur. واختار شيخ الإسلام رحمه الله لتعريف الإيمان اللغوي أنه بمعنى الإقرار، لأنه أصدق في الدلالة على معنى الإيمان من غيرها من الألفاظ التي فسر بها الإيمان. Cheikh l'Islam, rahmatullah alayhi, dans ses fatawa, a choisi pour la signification linguistique de l'iman la confirmation, le terme la confirmation, car c'est la signification la plus forte qu'il dit à l'iman. Par rapport aux autres définitions, il justifie cela, rahmatullah alayhi, il justifie son choix, rahimahullah, en disant قال رحمه الله في المجموع فالإيمان لغة هو الإقرار لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط، وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر، ولأن قر وآمن متقاربان، فالإيمان دخول في الأمن والإقرار دخول في القرار. إلى دي رحمه الله concernant cette définition qui concerne l'iman dans la langue, il dit c'est la confirmation. Car tzdiq, qui est le fait de prendre comme véridique ou de certifier la véracité, convient seulement à ce qui est annoncé, à la nouvelle qu'on annonce. Quant au terme confirmation, il convient à l'annonce et à l'ordre. car le verbe qarra et amana sont proches. L'iman, c'est rentrer dans la sécurité. Le qarar, c'est rentrer dans la décision pour s'y maintenir. وقال رحمه الله ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد إلى ذي رحمه الله toujours dans le مجموع الإيمان c'est la confirmation et non pas tout simplement certifier la véracité. La confirmation englobe la parole du cœur qui est la certification et l'acte du cœur qui est la soumission. يقول رحمه الله وأما شرعا يقول في العقيدة الواسطية في معرض بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وأصولهم التي اتفقوا عليها ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة الله عليه ونبدل سينيفيكاسيون ليجيسلاتيف dans l'aqid al-wasitiya, clarifiant les fondements des gens de la sunna sur lesquels ils sont unanimes, il dit, fait partie des fondements des gens de la sunna, que la religion et la foi, ce sont des paroles, des actes et paroles du cœur, paroles de la langue, les actes du cœur, les actes de la langue et les actes des membres, des autres membres. Et ça s'arrête la définition du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, de ce terme l'Iman au niveau de la législation. وهذه خمسة أمور اشتمل عليها مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce sont là cinq choses que cite Cheikh l'Islam qui rentrent dans la définition de l'Iman chez les gens de l'unité et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. La parole du cœur et son acte. La parole de la langue et son acte. Et les actes des membres du corps. Les preuves concernant cela sont nombreux dans le Coran et dans la Sunna du messager alayhi salatu wassalam. ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يقولون الإيمان قول قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ويقولون وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. C'est pour ça que les imams parmi les grands salaf رضوان الله عليهم les grands imams de la science disaient la foi ce sont les paroles du cœur et de la langue, sont aussi les actes du cœur et les actes de la langue, et les actes qu'on fait avec les membres et les actes des membres. Et il disait aussi, la foi ce sont des paroles et des actes et des croyances qui augmentent avec l'obéissance et qui diminuent avec la désobéissance. الآن سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا هل يمكن لأحد أن يعرف حقيقة الإيمان بدون الوحي معتمدا على خبرته اللغوية فهذا أخ الإسلام لا يمكن أبدا لا يمكن أن تعرف حقيقة الإيمان إلا من الوحي. Maintenant la question est-ce possible que quelqu'un puisse connaître la réalité de la foi sans la révélation en se basant tout simplement sur la grande connaissance qu'il peut avoir de la langue arabe. Ceci est impossible à l'islam. La réalité de la foi ne peut être connue qu'à partir de la révélation. J'a fi sahihayn min hadith ibn Abbas fi qissati al-wafd, wafd Abd al-Qais, alladhina ja'u ila an-nabi sallallahu alayhi wa qalu ya rasul Allah inna baynana وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. Il est rapporté dans les authentiques hadith d'Abdullah ibn Abbas que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée concernant l'histoire de la délégation de Abd al-Qais qui sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam Ils ont dit au messager d'Allah, il y a entre nous et toi ces tribus de Mondar parmi les mécréants. Donc nous ne pouvons pas venir te voir tout le temps. On peut venir te voir que durant le mois sacré. C'est-à-dire durant le mois où la guerre est interdite. Hein? Ils ont dit, ordonne-nous au messager d'Allah, ordonne-nous une parole synthèse qu'on annonce à au nôtre que nous avons laissé dans nos villages et qui nous fera rentrer au paradis. Qala, alayhi salatu salam, amurukum bil iman billah. Thumma qala lahum atadruna mal iman billah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lamu hadha ash-shahid. Et le messager alayhi salatu salam il leur a dit, je vous ordonne la foi en Allah. Est-ce que vous savez ce que c'est que la foi en Allah? Ils ont dit, seul Allah et son messager le savent. Et c'est là notre point d'argumentation dans cette question. Dans cette question du messager alayhi salatu salam et dans la réponse de cette noble délégation qui est la délégation de Abdel Qais. هذا يدلك على أن الإيمان حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرف إلا من خلال الوحي ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم رضوان الله عليهم قال أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم donc أخ الإسلام de là tu sais que la foi est une réalité légiférée qu'on peut connaître que par la révélation. C'est pour ça qu'ils ont répondu à la question du prophète alayhi salatu salam. Allah et son messager seuls savent. La question était quoi? Il leur a posé la question, est-ce que vous savez ce que c'est que la foi en Allah? Ils ont dit, seul Allah et son messager le savent. Hein? Pourtant, c'est des Arabes. L'arabe, c'est leur nature. Ils ont répondu ainsi. فالإيمان حقيقة شرعية لا سبيل لمعرفتها إلا من خلال الكتاب والسنة وهؤلاء الذين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وأخبروا أنه لا علم لهم به أهل لسان عربي فصيح. Donc cela nous prouve que la foi est une réalité légiférée. Le seul moyen pour la connaître, c'est le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salatu salam, avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alim. Et ceux à qui le prophète alayhi salatu salam a posé la question sur la foi et qui ont répondu et dont la réponse a été qu'ils ne savent pas, ce sont des Arabes qui maîtrisent l'arabe, qui ont l'éloquence de cette langue arabe. Et pourtant il dit on ne sait pas. الآن السؤال هل يعرفون مدلولة الكلمة لغة أو لا يعرفونه مدلول كلمة الإيمان لغة هل يعرفونه أم لا الجواب أنهم يعرفون مدلولها لغة لكن للإيمان حقيقة شرعية لا تعرف باللغة إنما تعرف بالوحي. Maintenant la question, est-ce que cette délégation du Wafd Abdel Qais connaissait la signification de l'iman en langue arabe? Il n'y a aucun doute qu'ils la connaissent. Aucun doute. Mais tout simplement, la foi est une réalité légiférée qui ne peut se connaître que à partir de la langue arabe, tout simplement. Abeden. La signification linguistique n'est pas suffisante. Est-ce que... Et cela te prouve qu'on ne doit pas être un but de soi quand on a un petit niveau de langue arabe et on commence à vouloir interpréter les paroles d'Allah, les paroles du Salaf et ainsi de suite. Cela amène vers la perte. Et nous avons à prendre modèle chez ces nobles compagnons qui sont cette délégation de Wafd Abdel Qais. هكذا خذ لك مثلا الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الحقائق الشرعية. الذي يعرف معنى الصلاة لغة هل أدرك معنى الصلاة شرعا؟ أبدا. Ainsi prend l'exemple de la prière, du jeûne, du pèlerinage, de la zakat et autres réalités législatives, autres choses qui sont dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui connaît la définition linguistique de la prière seulement, est-ce qu'il a cerné la prière au niveau de la législation? Abadan. Hein? Il peut pas. En langue arabe, salah veut dire dua. Est-ce que salah c'est tout simplement dua? Ou ce sont des actes particuliers, des paroles particulières, hein, et spécifiques? كذلك الحج والصيام لا يمكن أن تعرف حقيقتهما إلا بالشرع وهذه الألفاظ كلها معناها معروف في اللغة العربية الصيام الحج كذا لكنها حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرفها إلا من خلال الوحي. Il en est de même pour le pèlerinage, pour le jeûne. On ne peut pas connaître la réalité du pèlerinage et du jeûne qu'à travers la législation. Pourtant, la signification du terme al-hajj, il est connu en langue arabe. C'est aller vers un but. Hein? Est-ce que c'est aller vers tel but? C'est ça le pèlerinage qui est demandé dans la législation? Non, abadan. Le jeûne aussi, sa signification, il est connu dans la langue arabe. Mais est-ce que la définition de la langue arabe, c'est celle qui est venue dans la législation? Abadan. قال أهل العلم وبهذا يدرك الخطأ الذي يوجد في كثير من الكتب التي تؤلف في الإيمان ويقولون فيها الإيمان لغة التصديق وشرعا التصديق مثل لو قال قائل الصلاة لغة الدعاء وشرعا الدعاء ها ولو قال الحج لغة القصد وشرعا القصد. Et partant de là, c'est pour ça que les savants ont dit, ainsi on cerne l'erreur qu'il y a dans beaucoup de livres écrits, beaucoup de livres qui ne sont pas écrits par les gens de la sunna, dans beaucoup de livres écrits sur le sujet de l'iman, le sujet de la foi, et il est défini ainsi. Au niveau de la langue arabe, c'est certifier la véracité. Et au niveau de la législation, certifier la véracité. Hein? C'est comme si quelqu'un ait dit la prière, linguistiquement, au niveau de la langue, ça veut dire dua. Et au niveau de la législation, ça veut dire dua. Hein? Ou il dit pour le hajj ça veut dire en langue arabe aller vers un but, se diriger vers un but. Et au niveau de la législation, le pèlerinage, ça veut dire aussi aller. أبداً ce n'est pas ça sa signification. فالحقيقة الشرعية لا يمكن أن تعرف باللغة فقط أبداً. La réalité et la définition législative ne peut pas être connue tout simplement par la langue arabe. Hein? ولو كان المعنى الشرعي يعرف باللغة لأجاب وفد عبد القيس لأنهم أهل اللغة ويعرفون معنى الإيمان لغة. ولو كان الإيمان يعرف بالمعنى اللغوي كيف يأتي سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله فقالوا الله ورسوله أعلم. Et si la signification et la définition au niveau de la législation de l'Iman se connaît avec la langue arabe seulement, ben la délégation de Abd al-Qais aurait répondu à la question. C'était des gens qui maîtrisaient la langue arabe et qui étaient excellents au niveau de la langue arabe. Ils connaissaient la définition de l'iman en langue arabe. Et si la définition linguistique suffisait pour donner une idée et donner la signification de l'iman, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas posé la question « Atadrouna mal iman » Est-ce que vous savez ce que c'est que la foi en Allah? Hein? « Wa qabla hadha laka an tata'ammal »« Qawla Allah azza wa jal »« Wa kathalika awhayna ilayka rouhan min amrina »« Ma kunta tadri »« Ma l'kitabu wa l'iman »« Walakin ja'annahu nouran nahdi »« Bihi man nasha'u min ibadina » أي نهدي به إلى الإيمان وحقيقة الإيمان والقيام بواجبة الإيمان. Et tu as médité ce verset, frère en Allah, Azza wa Jal, dans Sourate Shura, dans la traduction approximative, nous dit ceci. C'est ainsi que nous t'avons révélé une âme de notre ordre. Et c'est l'âme, c'est la révélation. Il l'a appelée âme parce que c'est la vie du cœur. Comme l'âme est la vie du corps. Hein, la révélation, c'est la vie du cœur. C'est pour ça, d'où le nom âme. Nous t'avons révélé une âme de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi. Donc la connaissance vient d'où? De la révélation. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nous soumis. En vérité, tu guides vers un chemin droit. Qui guide vers un chemin droit? Le messager, alayhi salatu wassalam. Donc, dans le verset, nous guidons vers la foi, ça veut dire nous guidons vers la foi, vers la réalité de la foi et vers l'accomplissement des obligations de cette foi et de ce que ça implique cette foi. فالإيمان لا يعرف إلا من خلال الوحي حقائقه وتفاصيله وشرائعه ولهذا من طلب لنفسه معرفة الإيمان بغير الوحي ضل سواء ها ضل سواء طلبه بالعقل أو بالفكر أو بالفلسفة أو بعلم الكلام أو بأي شيء آخر يضل ويخرج عن السبيل. Donc la foi, إيمان ne peut être connu qu'à travers la révélation. Sa réalité, sa définition, ses détails, ses obligations, ses législations. C'est pour ça que ceux qui cherchent la connaissance d'El Iman et qui ont cherché la connaissance d'El Iman en dehors de la révélation se sont égarés et s'égarent en la cherchant par la raison ou par la réflexion ou par la philo ou par la scolastique qui est un mélange de philo et de théologie chrétienne. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية كيف يرام الوصول إلى معرفة الأصول بغير ما جاء به الرسول كيف يرام الوصول إلى معرفة الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أي هذا مستحيل. الذي يريد أن يعرف الإيمان يجب عليه أن يأخذه من أصله ومنبعه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق منهج وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ابن أبي العز الطحاوي رحمة الله عليه dans شرح الطحاوي il attire notre attention sur ce point essentiel. Il dit comment on peut arriver au fondement, hein, au fondement dans la religion et dans la foi en dehors de ce qui a été transmis par le messager. C'est impossible d'y arriver. Les fondements de la foi et les fondements de cette religion, c'est impossible d'y arriver sans la révélation. Abedan. Donc celui qui veut connaître la foi, il faut qu'il la cherche dans sa réelle source et dans sa seule source qui est le livre d'Allah, l'authentique de la sunna selon la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Yaqul ibn al-Qayyim كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليكم le rapporte ابن القيم رحمه الله عليه dit celui qui se détache des preuves s'égare de la voie. Il dit, il n'y a pas de preuve que dans ce qui a été transmis par le messager. Les preuves se trouvent dans la révélation. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. Et ça, ce sont nos pieux prédécesseurs, wallah alayhim, ceux qui sont nos modèles. فالذي يفارق الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يضل السبيل. وهنا تعجب غاية العجب لأقوام يتحدثون عن الإيمان وعن أصوله بمجرد العقل بدون وحي فقط بنظريات فلسفية وآراء منطقية. لو أنه كذا لكان كذا أو كذا، ويجعلون هذا هو المعتمد والأساس لمعرفة الإيمان وأصوله، يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على الوحي، وجعلوا العقل أصلا وجعلوا النقل فرعا تابعا لهذا العقل. ولهذا قال القائل على هؤلاء: نشهدوا في شهادة من يقول وأشهد أن عقلنا رسول الله، العياذ بالله. كيف يقدم العقل على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Et donc celui qui se détache des preuves, Allah a dit, le messager a dit عليه الصلاة والسلام, divide la voie droite. Et l'étonnement ne s'arrête pas concernant des gens qui parlent de l'iman et de la foi et de ses fondements avec la raison, sans la révélation, que des conceptions philosophiques, des opinions logiques. Hein? S'il est ainsi, ben il sera ainsi. S'il est ainsi, il va être ainsi. Et ça n'arrête pas. Et il aura ceci, etc. Leur base pour discuter sur l'iman et pour le définir, la philosophie, la raison, au point qu'ils ont mis la raison au-dessus des textes de la révélation. Ils ont fait que la raison, c'est elle le fondement, et les textes, hein, ce sont les branches de ce fondement. Hein. Et celui qui a agi ainsi, il n'y a aucun doute qu'il est dans un égarement clair. C'est pour ça que c'est un salaf concernant ces gens, Al-Kalam, ils ont dit cela, doivent attester dans leur attestation, j'atteste que ma raison c'est le messager d'Allah, l'Iyadan Billah. والآن مع خمسة أحاديث مذكورة في جل كتب الإيمان، جل الكتب التي ألفت في الإيمان ذكرت في هذه الخمسة أحاديث. إذا حفظتها يا عبد الله وأخذت فهمها عن العلماء الموثقين تعطيك مفهوما صحيحا وحقيقيا للإيمان من جوانب من جميع جوانبه، لأنها أحاديث جامعة. Passons maintenant à cinq hadiths cités presque dans tous les livres qui ont été écrits sur concernant la foi et les croyances. Si le soumis d'Allah Azza wa Jalla les mémorise et cherche leur interprétation chez les savants dignes de la voix du pieux prédicateur d'Allah Alim, il va cerner la définition authentique de l'Iman. Il va cerner tous les aspects de la foi. Hein? Car ce sont des hadiths synthèses, comme disent les hommes de science. Le hadith le premier, hadith Jibril, alayhi salatu wa salam. Et le mot du shahid, dans le hadith Jibril, dans ce qui est le sens de l'iman, le Jibril, alayhi salatu wa salam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni an l'iman. Il a dit, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Le premier hadith synthèse dans cela le célèbre hadith de Jibril عليه الصلاة والسلام. Qui ne connaît pas le hadith de Jibril? Hein? Et la place de l'argumentation dans ce hadith concernant la définition réelle et légiférée de la foi, elle est là où Jibril a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, interrogeant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en présence des compagnons, il l'a interrogé à propos de la foi. Et le prophète lui a répondu, l'iman consiste en ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin bon ou mauvais. Bimada fassara Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'iman huna. ونحن نتكلم عن المفهوم الحقيقي للإيمان في الشرع. تأمل، فسر الإيمان هنا بهذه الأصول الستة. فأفادنا الحديث أن الإيمان يتكون من هذه الأصول الستة ويقوم عليها. فسر عليه الصلاة والسلام الإيمان هنا بالعقائد الباطنة التي تكون في القلب. فالفائدة الأولى في الحديث أن للإيمان أصولا ستة يقوم عليها، وتفسير وتوضيح هذه الأصول في كتب العقائد. ورسالة العلامة العتيمين ما هي إلا شرح لهذه الأصول بأسلوب سلس ضمنه فوائد كثيرة رحمه الله تعالى. Donc regarde ici avec quoi le messager عليه الصلاة والسلام a expliqué la foi ici. Et rappelez-vous notre sujet, notre point. C'est la définition dans la législation de la foi, la définition réelle de la foi au niveau de la législation. Et qu'on retient ici que le messager alayhi salatu wasalam a expliqué la foi par ses six fondements. Donc nous retenons du hadith que la foi est basée sur ces six fondements. Et que la foi s'accomplit sur ces six fondements. Il est basé sur ces six fondements. Hein? Le messager donc a expliqué l'iman, les croyances nouées dans le cœur, hein, par les croyances qui sont nouées dans le cœur, par ce qu'il y a dans le cœur. Hein? Donc la première leçon concernant notre sujet dans le hadith, la foi en six fondements sur lesquels s'accomplit, va s'accomplir la foi. Et les clarifications et les explications de ces fondements de la foi, on les retrouve dans les livres d'Al-Aqidah du dogme. Et la risala que nous allons étudier, celle de Cheikh Al-Uthaymeen, n'est qu'une explication de ces fondements dans un style agréable et facile dans lequel il y a beaucoup de leçons à retenir. Le hadith al-Tani, hadith al-Mashhour, inda al-Ilm, بحديث وفد عبد القيس مر معنا المتفق عليه حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بأمر فصل نخبره به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع وأمرهم بالإيمان بالله وحده وقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم وأن تعطوا من المغنم الخمس الحديث. وهذا موضع الشاهد لموضوعنا مفهوم الإيمان الحقيقي، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا موضع الشاهد. Le deuxième hadith, le célèbre hadith connu chez les hommes de science et les savants par le hadith de la délégation d'Abd al-Qais, qui est un hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ils ont demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, ordonne-nous une parole synthèse que nous transmettrons aux nôtres et qui nous fera entrer au paradis. Ils l'interrogèrent aussi sur les boissons. Il leur ordonna quatre choses, il leur a interdit quatre choses. Il leur ordonna la foi en Allah seul. Il leur dit, savez-vous ce qui est la foi en Allah seul? Ils ont dit non. Allah et son messager sont plus savants. Il leur a dit, attestez qu'il n'y a de digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le soumis et le messager d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et donner le cinquième du butin. Hein? Ici, l'argument dans le hadith, l'explication qu'a donné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de la foi ici, c'est attester qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, le fait de, hein, d'accomplir la prière, hein, de donner le cinquième du butin et ainsi de suite. تأمل أخ الإسلام الآن هذا الحديث هذا الأحاديث فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الظاهرة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة فعلى ضوء هذا الحديث الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإيمان وهي من الإيمان شهادة إيمان صلاة إيمان زكاة إيمان صلاتنا جزء من إيماننا صيامنا جزء من إيماننا، زكاتنا جزء من أيماننا، فعموم الطاعات التي أمر الله بها إيمان. فأفادنا حديث وفد عبد القيس دخول أعمال الصالحة في مسمى الإيمان. Et donc, méditez maintenant avec moi comment le prophète عليه الصلاة والسلام a défini la foi dans ce hadith, la définition qu'il en a donnée. Cela montre clairement que les œuvres apparentes font partie de la foi et sont une composante de la foi. L'attestation de foi, la prière, la zakat, etc. À la lumière de ce hadith, nous comprenons que les actes apparents font partie de la foi, ils sont une composante intégrale de la foi. Les deux attestations, c'est la foi. La prière, c'est la foi. La zakat, c'est la foi. Le pèlerinage, c'est la foi. Hein? Le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal, fait partie de la foi, etc. C'est une partie, les actes d'obéissance sont une partie. Ils composent, ils font partie de la foi et ils la composent. Hein? Et donc, nous retenons du hadith de la délégation d'Abdul Qais que toutes les bonnes œuvres rentrent dans la définition de la foi. Ils font partie de la foi. Wa na'ti ila al-hadith al-thalith, hadith Abu Hurayra radiyallahu anhu warda. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث في الصحيحين. Venons maintenant au troisième hadith, le hadith d'Abu Hurayra رضي الله عنه وارضاه. Il a dit عليه الصلاة والسلام: le fornicateur ne commettra pas l'adultère une fois quand il a la foi. Le voleur ne volera pas quand il a la foi. Celui qui boit l'alcool ne la boira pas quand il a la foi. Mais il faut faire très attention ici à la signification de ce hadith pour ne pas tomber dans la voie des al-khawarij. Le hadith veut dire, comme l'ont expliqué les savants, que le croyant ne commet ses péchés que lors de la faiblesse de sa foi. Le croyant va commettre l'adultère ou boire de l'alcool, ou voler, ou faire un péché capital, quand sa foi il est bas. Hein? Donc le hadith n'annule pas l'islam de la personne. Abadan, il faut faire très attention à ça. وَمَاذَا نَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوْضُوعِ تَفْسِيرِ الْإِيمَانِ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ تَرْكَ الْمَعَاصِ إِيمَانِ وجزء من إيماننا تركنا للمعاصي. ترك الزنا إيمان، ترك السرقة إيمان، ترك القتل إيمان، إلى غير ذلك، كله يدخل في الإيمان. وهنا فائدة عظيمة مستفادة من هذا الحديث، وهو أن ترك المعاصي من الإيمان. وفي حديث عبد القيس ها الأعمال الصالحة من الإيمان، العمل الصالح من الإيمان، وترك المعاصي من الإيمان كذلك. وأكرر أن الذي يقع من المسلمين في بعض هذه المعاصي لا يخرج من الدين، وما يخرجه من الدين إلا الخوارج والمعتزلة ومن على شاكلتهم. أما أهل السنة والجماعة فلا يخرجونه إلا إذا استحلها، إلا إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال. وإذا اقترف المعصية وهو معترف بأنها حرام فهو مؤمن ناقص الإيمان، ولا يكون في مرتبة من لا يقارف هذه الذنوب ولا يرتكبها. ولهذا يحتاج المسلم أن يكون على بصيرة في هذا الباب، لأن لا يقع في أحد النوعين من الزلل. زلل من يخرج من ارتكب المعاصي من الدين وهذا باطل، وزلل من يقول أن هذه المعاصي لا تؤثر على الإيمان أصلا وهذا باطل كذلك. إيه؟ والحق بين ذلك. والمهم هذا الحديث يفيدنا أن ترك المعاصي من الإيمان. Et donc, nous retenons quelle leçon dans ce hadith? La définition authentique de la foi. Nous retenons quelle leçon de ce hadith concernant la définition authentique de la foi, concernant la définition de la foi dans la législation. Nous retenons que le fait de délaisser la désobéissance et de s'en éloigner et de s'éloigner des péchés, cela fait partie de la foi. Donc fait partie de la foi, le fait de délaisser les péchés et de s'en éloigner et de s'en abstenir. Délaisser la fornication, délaisser l'alcool, délaisser le vol, hein, le meurtre, ceci fait partie de ta foi, akhi l'islam. Et donc ici, c'est une grande leçon importante que nous devons retenir dans ce hadith. Délaisser la désobéissance et les péchés fait partie de la foi. Et donc ici, c'est une grande leçon importante que nous devons retenir dans ce hadith, c'est que le fait de s'abstenir et de délaisser, de s'éloigner de la désobéissance et des péchés, fait partie de la foi. Et dans le hadith de la délégation de Abd al-Qais, accomplir les bonnes œuvres fait partie de la foi. Donc nous avons deux choses au niveau des œuvres. Délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit fait partie de la foi, et mettre en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonné fait partie aussi de la foi. Et je répète, que le musulman qui commet les péchés capitaux, cela ne le fait pas sortir de l'islam. Il n'y a que le khawarij, le mu'tazila, qui le font sortir de l'islam, et ceux qui ont pris la même voie qu'eux. Mais les gens de la sunna, tant que celui qui commet les péchés capitaux ne dit pas que c'est licite, que zina c'est licite, que l'alcool c'est licite, ben il est toujours croyant. Mais c'est un croyant dont la foi est faible, dont la foi a diminué. C'est un croyant qui est croyant de par sa voix et de par le bien qu'il fait. Il est pervers de par les péchés qu'il fait. Il ne le sort pas de l'islam. Abadan. Et bien sûr, ne seront jamais égaux les croyants qui ne font pas de péchés capitaux, qui sont préservés, qui sont éloignés, et ceux qui le commettent. Jamais. Les degrés de la foi sont différents. Yahada, sa foi est élevée, l'autre, de par les péchés capitaux, sa voix va baisser. Et donc, le musulman a besoin de clairvoyance à ce niveau-là, pour ne pas tomber dans l'une des extrêmes. L'extrême de ceux qui décrètent la mécréance de celui qui commet les péchés capitaux, et qui le sortent de l'islam, qui sont le khawarij, et ceci n'est pas acceptable, ou l'extrême de ceux qui disent que les péchés n'ont aucun impact sur l'iman. Et cela est faux, et il est inacceptable non plus. Et la voie des gens de la sunna et de l'unité est entre ces deux voies-là. Il est dans un juste milieu. Hein? Amma al-hadith al-rabi' المشهور عند أهل العلم بحديث الشعب وهو في الصحيحين كذلك قال ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان إذنك لو كاتخيام حديث qui concerne la définition réelle dans la législation de hein, la définition réelle de la foi dans la législation, hadith d'Abu Huraira, dans les authentiques chez l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Le messager a dit, la foi présente plus de 70 branches, dont la cime, c'est-à-dire le sommet, et le fait de dire, la ilaha illallah ni din d'être adoré qu'Allah. Et la plus basse des branches est dotée de la route un objet gênant et un objet qui va faire du mal. Et la pudeur est une des branches de la foi. إذا تأملنا هذا الحديث يفيدنا في موضوع مفهوم الإيمان الشرعي أن الإيمان ليس شيئا في القلب فقط ولا شيئا في القلب وعلى اللسان فقط بل الإيمان في القلب واللسان والجوارح كما هي عقيدتها للسنة والجماعة في تعريف الإيمان. يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ويقولون قول واعتقاد وعمل. وميديتون سو حديث و غوتيان كونسيرنون لا ديفينيسيون ليجيسلاتيف et réel de la foi, que la foi n'est pas tout simplement ce qu'il y a dans le cœur. Abadan. Et que ce n'est pas tout simplement ce qu'il y a dans la langue et dans le cœur. Abadan. Mais la foi englobe ce qu'il y a dans le cœur, ce qui se dit par la langue et ce qui s'accomplit par les membres. Tout ça rentre dans la définition de la foi. Et ça, on le retient dans ce hadith. Hadith de Shu'ab. Et ça, c'est la définition que donnent les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna à la foi. Ils disent, la foi, ce sont des paroles avec la langue, des croyances dans le cœur et des actes avec les membres du corps. Et ils disent aussi des paroles, des croyances et des actes. Ce qui revient au même. وهذا الحديث يبين لك أن من فسر الإيمان وحصره في القلب فقط فهو مخطئ ومن فسره وحصره في القلب فقط في القلب واللسان فهو مخطئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان هنا وبينه في هذا الحديث بما هو شامل للقلب واللسان والجوارح et donc ce hadith nous clarifie sur la situation de celui qui explique l'Iman et le limite à ce qu'il y a dans le cœur que celui-là a commis une énorme erreur. Comme celui qui limite la définition de la foi à ce qui se fait, à ce qu'il y a dans le cœur et ce qui se dit par la langue. Celui-là aussi est dans une énorme erreur. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a clarifié et expliqué l'Iman dans ce hadith avec ce qui s'accomplit par le cœur, par la langue et par les membres du corps. قال عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله والضمير يعود هنا على شعب الإيمان أعلاها على الشعب وهذا دليل على فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي قولها بالقلب اعتقادا وباللسان نطقا فالقول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان يعني لما تقرأ في القرآن قولوا آمنا بالله أي قولوا بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين ومتلفظين. Le messager dans ce hadith عليه الصلاة والسلام a dit la cime et le sommet de ces branches de la foi c'est le fait de dire ni digne d'être adoré qu'Allah. Cela prouve les grands mérites de la parole de l'unicité La ilaha illallah. Cela veut dire, dites-la avec vos cœurs, avec votre cœur. C'est-à-dire, on y croyant dans votre cœur, en la prononçant avec votre langue. La parole, quand il est cité dans l'absolu, concerne la parole du cœur et celle de la langue. Cela veut dire, quand il est le verset, dans la traduction approximative du sens du verset dit ceci, dites, nous croyons en Allah. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, dites avec vos cœurs, croyons. Dites avec vos cœurs, on y croyons. Et prononcez avec votre langue. Le cœur, il se noue dessus. Et ça se prononce avec la langue. وهذا تنبيه أن لا إله إلا الله لا يكفي نطقها باللسان دون عقيدة. قال الله عن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي بلسانهم قالوا ما ليس في قلوبهم وقال عز وجل عنهم نشهد إنك قالوا نشهد إنك لرسول الله وهذا كذلك نطق باللسان فقط. Cela et ceci doit attirer notre attention que la ilaha illallah ça suffit pas le fait de la prononcer sans y croire abadan. Allah a dit concernant les hypocrites dans cette traduction approximative du sens du verset Quand les hypocrites rencontrent les croyants, ils disent, nous avons cru. C'est-à-dire, ils le disent tout simplement avec leur cœur, avec leur langue, ils disent. Mais ils n'expriment pas ce qu'il y a dans leur cœur. Tout simplement une parole par la langue. Et il a dit concernant les hypocrites dans Sourate les hypocrites, qu'ils ont dit dans la traduction approximative du sens du verset, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Ceux-là aussi ils l'ont dit tout simplement avec leur langue et non pas avec leur cœur. Qala alayhi salatu wassalam wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. وهذا عمل باليد إماطة الأذى عن الطريق عمل باليد وهذا من الإيمان وداخل في مسمى الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم عده إيمانا فأفاد الحديث دخول أعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان بجوارحه في الإيمان إلى دي عليه الصلاة والسلام dans ce hadith des branches la plus basse des branches c'est le fait d'ôter le mal de la route. Et ça, c'est un acte qui s'accomplit avec un membre du corps qui est la main. Et il fait partie des composantes de la foi. Le prophète l'a compté parmi la foi. Le hadith nous apprend que les bonnes œuvres accomplies par l'être humain avec les membres de son corps font partie de la foi. وختم عليه الصلاة والسلام الحديث بقوله والحياء شعبة من شعب الإيمان وهذا يدل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان فالحياء عمل قلبي فهو خصلة حميدة مكانها القلب تثمر الانكفاف عن المعاصي والإقبال على الطاعات وانتفاء الحياء من القلب يوقع الإنسان في الرذائل والخسائس وفي الحديث إذا لم تستحي فافعل ما شئت et le messager عليه الصلاة والسلام a conclu ce hadith des branches par sa parole عليه الصلاة والسلام la pudeur fait partie des branches de la foi constitue une des branches parmi les branches de la foi cela prouve que les actes du cœur font partie des composantes de la foi. Ils font partie des choses qui composent la foi, l'iman dans la législation. La pudeur est un acte du cœur. Et c'est une grande qualité qui est dans le cœur, qui joue le rôle de freiner l'être pour, il le freine pour ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour ne pas tomber dans les péchés. Il l'éloigne de la désobéissance et il l'éloigne des choses blâmables et des choses bas et viles. Et il le pousse, le haya, la pudeur le pousse à accomplir l'obéissance. Quand la pudeur disparaît d'un cœur, la personne fait tout ce qui n'est pas louable. Tout ce qui n'est pas louable, il va le faire. Il tombe très bas. Dans le hadith, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. فمن فوائد الحديث أن أعمال القلوب تدخل في مسمى الإيمان كالحياء والخشية والتوكل والإنابة والرجاء وغيرها من أعمال القلوب ومن الإيمان كذلك ترك الأعمال القلبية السيئة كما مر معنا في حديث أبو هريرة ترك المعاصي فهناك ذلك ترك الغش هذه أعمال قلبية وترك الغل وترك الحسد وترك الكبر وترك الضغائن وترك الحقد والسخائم كل هذا من الإيمان فهذه أعمال قلبية وجاء في الحديث في الدعاء اللهم اسلل سخيمة قلوبنا أي ضغائنه وحقده وحسده فتجنب هذه كذلك يعد من الإيمان وداخل في مسمى الإيمان وهو شعبة من شعب الإيمان et donc parmi les leçons de ce hadith les actes du cœur font partie de la définition de la foi ils font partie de la foi ils composent la foi telle la pudeur la crainte d'Allah fait de faire confiance en Allah, le fait d'avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi fait partie de la foi le fait de se débarrasser des mauvais actes du cœur. Hein? Les mauvais actes du cœur qui sont la haine, la jalousie, la tromperie, l'orgueil. Et dans le dua du messager alayhi salatu salam, « Oh Allah, débarrasse nos cœurs de la haine et de la jalousie. » Donc, délaisser ces mauvaises qualités fait partie de la foi. Et c'est une des branches de la foi. « Wa na'ti ila al-hadith al-khamis, hadith Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi, عند الإمام مسلم قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث يفيد أن الإيمان عقيدة وشريعة. العقيدة في قوله عليه الصلاة والسلام آمنت بالله، والشريعة في قوله عليه الصلاة والسلام ثم استقم، أي استقم على طاعة الله وعلى أوامر الله بامتثال الأوامر وشناب ما نهى الله عنه. Et le cinquième hadith, le hadith rapporté par Imam Muslim, hadith de Soufiane ibn Abdillah al-Thaqafi radhiyallahu anhu warda, qui rapporte, il dit: j'ai demandé au messager d'Allah, dis-moi une parole à propos de l'islam, à propos de laquelle je n'interrogerai personne après toi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dis je crois en Allah et puis, suis la voie droite. C'est-à-dire, reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Prends le chemin droit et reste constamment dans l'obéissance d'Allah. Le hadith nous apprend quoi? Le hadith nous apprend que l'iman, c'est à la fois une aqidah sur laquelle les cœurs se nouent, et c'est aussi une législation à suivre. Ce sont des ordres à mettre en application et des choses que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, duquel il faut s'abstenir et qu'il ne faut pas faire. Hein? La aqida donc quoi? Il lui a dit crois en Allah. Ah, dans la partie de la aqida. La législation il donne quoi? Et suis la voie droite. Il reste constamment dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en application de ses ordres et abstiens-toi de ce qu'il a interdit. Wa al-aqida tu al-iman billah wa bi kulli ma أمر الله الإيمان به والشريعة الاستقامة على طاعة الله ولزومها بفعل الأوامر والشيم بالنواهي. Donc la aqida, c'est le fait de croire en Allah et dans toutes les choses dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de croire. Et la législation, c'est de rester dans la droiture dans ta religion et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en mettant en application ses ordres et en s'abstenant de ce qu'il a interdit. وفي الحديث فائدة وهي ضرورة الثبات والاستقامة على الإيمان حتى الممات بحيث يجب على العبد أن يحافظ وأن يحفظ إيمانه وأن يسأل ربه أن يثبته عليه إلى أن يلقاه غير مبدل ولا مغير. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Et il y a une autre leçon à retenir dans ce hadith, c'est qu'il est obligatoire de rester constant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de préserver sa foi jusqu'à la mort et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la constance dans la religion et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala toujours en insistant le fait qu'il nous raffermit dans sa religion et dans la foi. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset: ou vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant soumis à Allah. C'est-à-dire tu dois rester, tu dois préserver ta religion et ta foi jusqu'à la fin de ta vie. Dans l'autre verset, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: et adore ton souverain jusqu'à la mort. هذا يتطلب منا ماذا؟ مجاهدة أنفسنا والاستعانة بربنا لن يأتي هذا من فراغ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، لأن القلوب قلوب بيد الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء، يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء. فلهذا علمنا أن نقول دائما وأبدا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. فلا بد أن نلح ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لكي يثبتنا ويثبت قلوبنا على دينه. Et bien sûr, ceci demande de notre part des efforts. Nous devons faire des efforts et chercher l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il a dit: tiens ce qui va t'être bénéfique et cherche l'aide auprès d'Allah et ne paresse pas, ne tombe pas dans la paresse. C'est-à-dire œuvre. Œuvre et tiens ce qui va t'être bénéfique. Et ne sois pas paresseux et cherche l'aide auprès d'Allah. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te raffermit, qu'il te donne la constance dans ta religion. Et qu'il raffermit ton cœur sur sa religion. Car les cœurs sont entre les mains d'Allah. Il les tourne comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Comme il veut. C'est pour ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le dua: ô Allah, toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et donc nous devons souvent insister dans nos dua et faire ce dua constamment. Comme l'a fait le messager alayhi salatu wassalam. Et là, ce sont 5 hadiths qui sont une synthèse sur la définition de la foi au niveau de la législation. Si tu le mémorises et tu prends leur définition et leur interprétation d'homme de science digne, là tu as cerné les détails de la foi et ce qu'il voulait avec la foi en ce qui concerne la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. فصلى الله العظيم رب العرش العظيم رزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يخرجنا وإياكم سالمين غانمين من هذه البلاد الكافر أهلها إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.